Par ailleurs, concernant le mariage, il est interdit à la femme musulmane d'épouser un non-musulman. Le Coran est très clair là-dessus. Dieu dit, ne mariez pas vos filles, vous voyez, ne mariez pas vos fils. Donc l'homme, le père, en principe, qui marie sa fille. Je reviens à la question de la tutelle. Ne mariez pas vos filles à des polythéistes associateurs avant qu'ils croient. Sourate 2, verset 221. Je vous explique. Bon, donc là, la musulmane ne peut pas épouser un polythéiste, donc quelqu'un qui est sans religion, ou un associateur, c'est-à-dire un croyant. Et un juif non plus. Pourquoi ce principe? C'est parce que du point de vue musulman, la religion se transmet par le père. Alors, si une musulmane devient la femme d'un chrétien ou d'un juif, on craint que les enfants ne soient juifs ou chrétiens. C'est pour assurer la transmission de l'islam aux enfants qu'il y a cet empêchement matrimonial, voyez. Par contre, un homme musulman a le droit d'épouser une chrétienne ou une juive. Et l'épouse peut conserver sa religion. Elle n'est pas obligée de se faire musulmane. Maintenant, c'est sûr que dans certains milieux, des pressions s'exercent sur l'épouse chrétienne, par exemple, pour l'amener à se faire musulmane. Et on lui dit une chose qui est, on lui fait entrevoir une chose qui est réelle, c'est que si la femme chrétienne d'un musulman reste chrétienne, dans le cas où son mari décède avant elle, elle perd tout droit à l'héritage. Donc ça donne un moyen de pression. Non, mais ce n'est pas général non plus, hein, bien entendu. Alors, vous voyez, je voulais vous dire une chose. Ce principe coranique, il est tellement clair, donc l'interdiction du mariage d'une musulmane avec un non-musulman, que dans des pays qui ont voulu moderniser leur code matrimonial, comme la Tunisie et la Turquie, sont les deux pays en pointe de ce point de vue, eh bien, ils n'ont pas pu supprimer cet empêchement matrimonial. Autant ils ont pu supprimer la polygamie et la répudiation parce qu'il y a des conditions qui sont mises, là, c'est tellement net qu'il n'est pas possible de modifier quoi que ce soit. Je voulais vous dire autre chose à ce sujet. On est toujours dans le contexte là de l'expansion, assurer la croissance de l'Oumma, de la communauté des musulmans. Ah oui, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. Dans les pays d'Europe, comme il y a de plus en plus de musulmans, hommes et femmes bien sûr, il y a des jeunes gens non musulmans, chrétiens ou pas chrétiens, c'est pas là la question, qui ont un projet de mariage avec une musulmane. Alors du côté musulman, de la famille et de la future épouse, on demande aux fiancés de se faire musulmans. Souvent, les jeunes gens ne voient pas conséquence. On leur dit, ne vous inquiétez pas, vous pouvez garder votre croyance si vous voulez. C'est une simple formalité. Donc, on les amène à prononcer la profession de foi en arabe, comme je vous l'ai dit hier. Le problème, c'est que ce n'est pas une simple formalité. Parce que quand on est musulman, on ne peut plus en sortir. Après, je vous expliquerai. Ça, c'est la question de la liberté religieuse. Vous voyez, mais en tout cas, dans les pays d'Europe, ce genre de mariage se répand beaucoup. Par ailleurs, l'inégalité de la femme par rapport à l'homme, elle se retrouve aussi dans l'héritage. Le Coran est très net à ce sujet. Dieu vous ordonne d'attribuer au garçon une part égale à celle de deux filles. Sourate 4, verset 11. Ça aussi, c'est un précepte qui n'a pas pu être supprimé des codes de droit tunisiens et turcs. L'inégalité, on la retrouve aussi dans le témoignage en justice. La femme seule ne peut pas témoigner. Voilà ce que dit le Coran. Demandez le témoignage de deux témoins parmi vos hommes. Si vous ne trouvez pas deux hommes, choisissez un homme et deux femmes parmi ceux que vous agréez comme témoins. Ainsi, si l'une des deux femmes se trompe, l'autre lui rappellera ce qu'elle aura oublié. Sourate 2, verset 282. Voilà. Alors, par contre, concernant l'éducation, le garçon et la fille ont normalement le droit de recevoir le même enseignement, d'aller à l'école, de suivre des études, même supérieures à l'université. Le Coran n'interdit absolument pas à la fille donc de recevoir cet enseignement. Est-ce que les femmes peuvent accéder à des responsabilités politiques? Le Coran ne dit rien du tout à ce sujet. Il arrive que des femmes aient accédé justement à des rangs élevés dans les États musulmans. Vous vous rappelez, je ne sais pas, de Benazir Bhutto, qui a été Premier ministre femme donc au Pakistan. Voilà, on a un exemple d'une femme qui a exercé des fonctions importantes à la tête de l'État. Voilà, mais je voudrais terminer ce sujet-là, qui est un sujet très important. Vous savez, je vais vous faire une petite réflexion après à ce sujet. Mais aussi une première remarque. Vous voyez combien la doctrine musulmane sur la femme et sur le mariage est une doctrine très pauvre, finalement. Concernant la femme, on ne trouve rien sur la dimension spirituelle de la femme, sur son mystère. Dans l'islam, la féminité est très rarement considérée pour ce qu'elle peut apporter à l'humanité, en vertu de ses charismes propres, outre l'enfantement. De même, l'histoire de l'islam n'est pas jalonnée de figures féminines dignes d'être exaltées, comme dans l'histoire du christianisme. En fait, les figures qui sont exaltées, ce sont pour l'essentiel les épouses de Mahomet, qui sont qualifiées de mères des croyants. Mais après, tout au long de l'histoire, on ne voit pas de femmes exaltées. Il n'y a pas l'équivalent de nos saintes. C'est quand même, vous voyez, une grande pauvreté. Je voulais vous dire autre chose, c'était quoi? Ah oui, c'est que la question de la femme, il faut bien s'en rendre compte, elle est centrale dans nos relations avec le monde de l'islam. Et aujourd'hui, ça prend des proportions très importantes. Les musulmans en sont venus, enfin beaucoup d'entre eux, ne généralisons jamais bien entendu, mais la manière dont l'Occident post-chrétien envisage la place de la femme dans la société est considérée comme de l'apostasie, une attitude d'apostasie aux yeux de beaucoup de musulmans. Ils trouvent que la femme a trop de liberté en Occident et surtout qu'elle se comporte d'une manière qui ne convient pas à sa nature. Notamment, on fustige beaucoup l'impudicité, qui malheureusement est bien répandue dans les pays d'Occident. Et c'est de cette manière que les musulmans se réapproprient des traditions qui avaient plus ou moins disparu, comme l'enfermement de la femme dans la tenue islamique intégrale. Vous voyez, c'est une réaction à ce qu'ils voient dans les sociétés occidentales. Ça leur répugne tellement qu'ils disent, nous sommes des sociétés propres, pudiques, etc. Nous, voilà, nous cachons nos femmes. Ce n'est pas juste, évidemment, d'enfermer la femme, mais il faut comprendre leur réaction par rapport au modèle de société en dehors de l'espace musulman qu'ils voient. Il y a des livres très importants qui ont été écrits ces dernières années pour expliquer l'importance extrême de la condition de la femme dans le malentendu qu'il y a entre le monde musulman et le monde chrétien ou post-chrétien aujourd'hui. Je n'ai pas pensé vous parler de ça, j'ai pas pris les titres. Si ça me revient tout à l'heure, je vous donnerai. Mais il est important de prendre conscience de ça, voyez. Oui, par exemple, même par rapport à la polygamie. Je me rappelle maintenant une musulmane à qui j'en parlais il y a quelques années. Elle me disait, mais je regrettais la permission polygamie. Mais elle me disait, écoute, chez nous au moins, tout est dans le cadre de la loi. Vous, chez vous, elle disait, enfin, évidemment elle exagérait, tous les maris ont des maîtresses. Et donc ils ne sont pas, tout ça n'est pas circonscrit par la loi. Nous au moins, nous avons la loi qui réglemente les relations entre l'homme et la femme. Vous voyez, c'est bien de savoir ce qui se passe dans la mentalité musulmane. Bon, voilà pour ça. Est-ce qu'il y a des questions là sur cette... Oui.
Je remonte un petit peu plus loin. Oui. Quand vous aviez parlé du jugement dernier, je m'excuse si vous avez répondu à ça.
Oui, je vous en prie.
Puisque Dieu veut tout, finalement, parce qu'il est en prédestination, avec même celui qui est traître, c'est que Dieu l'a voulu.
Oui, oui, oui.
Ou qui fait une erreur, c'est que Dieu l'a voulu. comment est-ce qu'il peut être comptable de ses propres actes devant Dieu au jugement d'un ami? Comment est-ce que Dieu peut juger des actes que lui?
Oui, c'est une question capitale, il n'y a pas de réponse. Je me la pose sans arrêt, je me dis vraiment... Non. Je suis désolée, mais...